Bonjour. Ce matin, j'aimerais être content de quelqu'un qui est incomparable, celui qui est incomparable. Vous savez qui c'est, hein? Donc, on va parler de Jésus ce matin. Bon, c'est un peu figure imposée, Noël, il y a deux jours, bon. Et pour parler de Jésus ce matin, on va lire trois textes, trois courts textes. D'abord, dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 6, c'est ce qui nous était annoncé. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est ce qui nous a été annoncé. Et c'était 7 siècles à peu près avant la venue de Jésus. Après, on va voir en 2 ou 3 versets ce qui s'est passé, et c'est dans Luc, c'est Luc qui nous le rapporte au chapitre 2, à partir du verset 10. Donc, ce qui s'est passé cette nuit de Noël. L'ange leur dit « Ne craignez point », l'ange parle au berger, « car je vous annonce une bonne nouvelle » qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça, c'est un peu l'histoire que tout le monde connaît de Noël. Et puis après, encore quelques versets qui nous parlent de, finalement, qui était ce bébé. C'est dans Colossiens, au premier chapitre de Colossiens, du verset 15 au verset 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il est le commencement. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Puis pour parler encore un peu de Noël, je vais vous citer un de nos écrivains, poètes, Charles Péguy, écrivain du siècle dernier. Et il a exprimé dans quelques lignes l'étonnement de Dieu. Voilà ce qu'écrit Charles Péguy. « Je ne comprends pas les hommes, dit Dieu. Tous s'apprêtent à fêter Noël et si peu pensent à mon fils. Noël, c'est pourtant la fête de mon fils. Et eux, ces hommes, pas tous, mais la plupart, font de Noël leur fête à eux. Ils mangent et boivent en famille, se font des cadeaux. Je veux bien qu'ils s'offrent des cadeaux et demandent même qu'ils en reçoivent, mais qu'ils n'oublient pas le cadeau extraordinaire que moi, Père, je leur ai fait de mon fils unique. A-t-on jamais vu un père donner son fils en cadeau? J'ai fait don de mon fils aux hommes qui se perdaient, parce que mon amour pour eux ne voyait pas d'autre moyen de les sauver. J'ai bien le droit de demander qu'à Noël, les hommes pensent un peu moins à leur cadeau à eux et davantage à mon cadeau à moi. Et je sais à quel point cela vaudrait mieux pour eux. Il faut être raisonnable, dit Dieu. Ou bien fêter Noël et recevoir mon fils et lui obéir, ou bien ne pas recevoir mon fils. Mais alors, ne pas fêter Noël. Il faut être raisonnable. dit Dieu. Et effectivement, on a l'impression que quelque part, on a volé Noël. Alors, dans un but lucratif, les commerçants profitent de cette opportunité pour faire des affaires et de bonnes affaires. On achète le sapin, le boudin, les bougies, la dinde, les cadeaux, j'en passe. La presse aussi a quelque part confisqué Noël pour faire de l'argent. Et pas que la presse, les chanteurs et chanteuses n'hésitent pas à chanter Noël, et même les pires incrédules sortent des albums à ce moment-là. Et puis tous les parents savent que dans le milieu scolaire, on parle non plus des vacances de Noël, mais des vacances d'hiver. On supprime même le nom de Noël. Au nom de la laïcité, les mairies n'ont plus le droit de faire des crèches. On veut ainsi gommer tout ce qui nous rappelle de près ou de loin Jésus-Christ. Tout ce qui touche de près ou de loin au christianisme. Cette année, on a même transformé le 8 décembre avec ce qu'il avait de fond religieux, même si on n'approuve pas toujours, en une fête laïque dédiée à la solidarité. Cette solidarité qui manque pourtant tellement dans notre monde. Le grand écrivain russe Solzhenitsyn partageait lors d'une conférence ses sentiments personnels sur la situation du monde. Il disait « Si je devais donner une raison pour expliquer les drames de notre société, je dirais nous avons oublié Dieu. » Et aujourd'hui, on voit bien le résultat d'un monde sans Dieu. Il ne tourne pas rond, mais pas rond du tout. Et tous, plus ou moins, nous souffrons de cela. Avant les attentats de novembre, certains pensaient encore que tout allait bien, que nous étions, nous, l'humanité, en progrès. On parlait des chutes de certaines dictatures, de l'avancement des démocraties, du développement des ONG, des succès de l'humanitaire, et j'en passe. Mais le million de réfugiés, les événements récents de novembre, nous ont montré une toute autre situation. On se voile la foi souvent en voulant croire que l'on va vers une humanité plus mûre, plus responsable, plus raisonnable. Dans notre beau monde occidental, pour accumuler de l'argent, on empoisonne nos enfants avec tout un tas de produits nocifs, d'images nocives, et nos gouvernements qui le savent, laissent faire. On empoisonne notre planète avec tous nos déchets, nos rejets, et nos gouvernements qui le savent, laissent faire. Et je ne pense pas que la COP21 y change grand-chose. Est-ce que c'est cela le progrès moral de l'homme et de l'humanité? Nos prisons sont remplies, les magistrats débordés, il faudrait davantage de policiers, de gendarmes. Les divorces n'ont jamais été aussi nombreux. Et on pourrait interroger les enfants du divorce sur le prétendu progrès moral de notre société. Il n'y a jamais eu autant de suicides. Notre génération est certainement la plus performante pour le suicide des jeunes et des adolescents. Des millions d'avortements sont réalisés de nos jours en Europe. Des armes de guerre n'ont jamais été aussi meurtrières et puissantes qu'aujourd'hui. Et nos chefs d'État qui prêchent la paix d'un côté, de l'autre vendent les armes, ces mêmes armes. Nos gouvernements démocratiques occidentaux soutiennent secrètement ou moins secrètement des dictatures sanguinaires pour satisfaire des convoitises financière, économique. Puis les pays riches ne cessent pas d'exploiter les pays pauvres. Est-ce cela le progrès moral de l'humanité ? Alors ce discours trompeur qu'on entend nous laisse croire que tout va bien, ou veut nous laisser croire que tout va bien, que l'homme s'améliore, que finalement, on n'a plus besoin d'un sauveur. Que le message de Noël est devenu inutile, dépassé, que l'homme va s'en sortir tout seul. Et pourtant, il y a encore des fous, des illuminés, qui croient que, malgré tout, l'homme au XXe siècle, au XXIe siècle, il ne faut pas se tromper d'un quand même, l'homme a encore besoin d'un sauveur. Les jeunes ont besoin de l'amour du Christ et du pardon de Dieu. Mais on leur donne mille et une choses inutiles qui leur serviront pas grand-chose. Les couples ont besoin de se mettre à genoux devant le Christ pour être solides face aux multiples tentations de la vie. Ceux qui sont entrés dans la blanche vieillesse ont aussi besoin de la lumière de Noël pour éclairer leurs derniers jours sur cette terre, leur ultime voyage. Tous, nous avons besoin d'un sauveur. Après cette année 2015, riche en événements, tout le monde voudrait que les choses changent. En cette période de fin d'année, on va nous bassiner les oreilles avec des formules de vœux, des souhaits. Mais pour que les choses changent vraiment, il faut que le cœur même de l'homme soit transformé, qu'il soit lavé, qu'il soit purifié. Et seul le Christ vivant peut changer les cœurs. Seul le Christ peut changer notre façon de penser, de vivre. C'est pour ça que le Christ est venu. C'est le pourquoi de Noël. Jésus a dit quand il était sur cette terre, « Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors si on se sent propre, juste, si on se sent impeccable, alors le Christ serait venu pour rien. Mais lui, il est venu pour ceux qui savent reconnaître qu'ils en ont besoin, qu'ils sont pécheurs, qu'ils plaident coupables. Il ne peut absolument rien pour ceux qui se considèrent comme justes. Du temps de Christ, déjà, beaucoup de pharisiens voulaient se convaincre qu'ils étaient justes. Et pour leur répondre, Jésus dit encore « Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. » C'est le sens de sa venue. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre pour apporter la vie, le pardon. Et c'est de cela que notre société a besoin, du pardon, de la vie, du pardon de Dieu. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et Dieu peut faire cela pour tous, s'ils le veulent. Pour tous ceux qui le veulent, il faut simplement l'accueillir, reconnaître son péché, recevoir son pardon. Et dans ces conditions-là, toute notre vie peut changer. C'est ça l'important de Noël. Remettre Christ au centre de la fête, au centre de nos vies. Et ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la joie de Noël. Hein. Ni le boudin blanc, ni la dinde, ni le sapin, ni les décorations, ni tout cela. Quand l'ange est venu annoncer Jésus-Christ, il a dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie ». Ces termes de bonne nouvelle et grande joie traduisent bien le fait que la vie du chrétien n'est pas triste. L'évangile n'est pas triste. le Noël des chrétiens n'est pas triste. C'est la fête. La fête, mais avec une personne au centre, Jésus-Christ, le Seigneur, celui qui est vivant. Ce n'est pas l'évangile qui engendre la tristesse, c'est le péché qui amène le chagrin et la douleur dans le monde. Vous croyez que l'alcoolisme, la haine, l'orgueil et bien d'autres choses peuvent amener le bonheur? Que nous soyons croyants ou pas, mille et un exemples autour de nous démontrent que tout cela n'apporte pas le bonheur, ni la joie, ni la paix. Au contraire, tout cela apporte le trouble dans notre société, dans notre cœur, dans nos familles, pour nos enfants. Le Christ, lui, il apporte la joie et une paix réelle, une paix profonde. Et pourtant, il y a quelque chose de mystérieux. Pourquoi donc la plupart de nos contemporains préfèrent l'alcool, le mensonge, la haine, l'orgueil, l'égoïsme, l'adultère, plutôt que Jésus-Christ? Et ça, c'est évident, parce que si ce n'était pas le cas, l'Église serait trop petite. Hein. Et Jésus nous donne une part de la réponse. Il dit, c'est dans Jean, au chapitre 3, « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et là, Jésus nous enseigne qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. On ne peut pas rester neutre toute sa vie. On ne peut pas rester neutre à Noël. On ne peut pas rester neutre devant la croix du Christ. On ne peut pas rester neutre devant son tombeau vide. Jésus a dit encore, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Ça signifie en clair qu'on est dans un camp ou dans l'autre. On n'est pas au milieu. Alors Noël nous rappelle que Dieu nous appelle, qu'il veut une réponse. Dit autrement, tant que l'homme n'a pas dit oui, c'est qu'il a dit non. Est-ce que certains d'entre nous n'auraient pas encore dit oui à Jésus-Christ? C'est à Dieu qu'ils disent non. Et dans ce cas, ils ne laissent aucune place à Dieu dans leur vie, aucune place à Jésus, à Noël, dans leur maison. Alors, regardons un peu les événements de ce premier Noël. La Bible nous dit que cet enfant qui est né il y a 2000 ans est différent de tous les autres enfants. Il est incomparable, unique. D'abord parce qu'il est éternel. Tous nous avons une date de naissance. Notre existence a commencé un jour. Mais le Christ existait déjà bien avant la crèche, bien avant la première nuit de Noël. La parole de Dieu nous dit qu'il existe de toute éternité. Il n'a pas de commencement de vie, ni de fin de séjour. Il était là avant la création, avant le premier atome. Jésus disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Jean-Baptiste disait de lui, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Allez comprendre. Jésus n'a pas commencé à exister à Noël. Il s'est incarné à Noël. Il a pris la forme d'un bébé à Noël, bien qu'il existait depuis toujours. L'enfant de Noël, c'est Dieu. le Dieu éternel qui prend la forme d'un enfant, un enfant unique, incomparable. Ce n'était pas seulement une image de Dieu, un portrait de Dieu. Jésus, c'est Dieu parmi nous, Emmanuel. Quand les apôtres demandent à Jésus « Montre-nous un peu le Père », il répond « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus, c'est Dieu lui-même, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Cet enfant est aussi incomparable à notre point de vue parce qu'il est né sans père humain. Aujourd'hui, on n'ose plus trop parler de cette réalité, tellement cette affirmation provoque des moqueries. La naissance du Christ est miraculeuse, elle a eu lieu sans il a été conçu sans l'intervention d'un homme. Et bien avant sa venue, les prophètes avaient annoncé qu'il allait venir et naîtrait miraculeusement d'une vierge. C'est le prophète Isaïe, toujours lui, qui disait, 7 siècles avant la naissance du Christ, « La vierge sera enceinte, elle enfantera un fils ». Alors vous savez que quand les savants juifs ont traduit l'Ancien Testament des Hébreux en grec, c'était 2 siècles à peu près avant l'avenue du Christ, ils pouvaient choisir entre 2 termes, la jeune fille ou la vierge. Ils ont pris le choix de la vierge, bien avant que la naissance miraculeuse du Christ. Ils avaient déjà compris que cette naissance serait miraculeuse, surnaturelle. Alors si cet enfant, ce bébé est unique, s'il est incomparable, sa vie aussi est unique, incomparable. Il a en effet vécu sans péché. On peut mal s'imaginer ce qu'est une vie sans péché. C'est tellement à l'opposé de notre nature. La Bible nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Jésus, lui, n'a pas connu le péché. Il n'a jamais offensé Dieu, ni transgressé un seul des commandements divins, ni fait jamais aucun mal à son prochain. Il est venu pour régler le problème du péché, sans jamais le commettre. Tous les hommes sont pécheurs, nous dit la Bible. L'Ecclésiaste affirme, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et l'apôtre Jean écrira, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. » Tous nous sommes nés avec cette maladie-là, cette maladie que la Bible appelle le péché. Nos cœurs sont contaminés. Jésus, lui, n'était pas contaminé. Il n'a jamais eu une pensée de jalousie, de haine, d'adultère, de vengeance. Il n'a jamais eu de geste contre son prochain. Il n'a jamais offensé Dieu, son Père. J'ai vu le seul homme qui n'a pas commis le péché. Même ses ennemis ont été obligés de le reconnaître. Comme on nous l'a rappelé quand il était devant Pilate, ses accusateurs ont dû trouver de faux témoins parce qu'il n'avait aucun mal dans sa vie. Rien ne pouvait lui être reproché. Est-ce qu'on peut rien nous reprocher? Il était vraiment incomparable. Et puis ce bébé Noël est spécial. Ce bébé de Noël, il est venu sur terre pour mourir. Tous les bébés naissent pour vivre. Le but de leur vie n'est pas la mort, bien que celle-ci soit inévitable. Mais Jésus est venu dans le but de mourir, pour donner sa vie. Et il l'a dit à plusieurs reprises aux disciples, à la foule. Avant lui, les prophètes avaient déjà affirmé qu'il viendrait pour mourir. Ils avaient annoncé par avance tout ce qui allait marquer la vie de notre Sauveur. Jésus a souvent déclaré qu'il venait pour s'offrir, c'était le but de sa vie. Donc, Noël, la crèche, dirige nos regards directement vers le but, vers la croix. Jean-Baptiste, quand il voit venir le Christ et qu'il le présente au peuple, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Or, pour nous, c'est peut-être un peu mystérieux. Pour le peuple d'Israël, la notion de sacrifice était bien connue. L'agneau pascal devait être offert, égorgé, pour que le sang répandu pardonne les péchés. Un seul peut ôter les péchés de nos vies, Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas autre chose. Nous prêchons Christ crucifié, mort pour nous, et Christ ressuscité. Or, connaître Jésus-Christ et savoir que nos péchés sont pardonnés, effacés, que Dieu ne s'en souvient plus, donne à Noël une saveur toute différente. Noël avec tous les cadeaux, mais sans le Christ, ça ne veut rien dire. Le plus beau cadeau de Noël, il est présent dans le cœur des croyants, c'est le Christ, notre Sauveur, celui qui pardonne nos péchés. Alors si quelqu'un ici ne connaît pas ce Noël-là, on veut partager avec lui cette bonne nouvelle et vous inviter aussi à recevoir pour vous en particulier, aujourd'hui et pour l'éternité, le salut qu'il vous offre. Un théologien du deuxième siècle c'est loin, c'était Tertullien, il disait « Le Christ, mille fois à Bethléem serait-il venu, si dans ton cœur tu ne l'as pas reçu, pour l'éternité tu resteras perdu. » Alors si quelqu'un n'a pas encore reçu le Christ, qu'il vienne donc aujourd'hui à lui simplement, pour pouvoir fêter Noël tout autrement avec Jésus-Christ dans son cœur. C'est la seule façon d'avoir l'assurance que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes enfants de Dieu, qu'on n'a plus à craindre sa colère, on n'a plus à craindre son jugement. Or Noël s'est passé, c'était il y a 2 jours, mais Noël c'est tous les jours. Tous les jours parce que Dieu nous pardonne tous les jours. Il nous pardonne tous les jours. C'est le plus beau cadeau de Noël. Acceptez ce cadeau. Amen.